Donc d'abord bonjour à tous, après une pause de 2 mois à peu près. Donc comme l'a dit Toby, voilà, peut-être que ce que l'on a déjà dit sur les autres églises, ça commence à dater un petit peu. Donc je vous rappelle juste en une minute, très très rapidement, Éphèse, la première des 7 églises, son dilemme, elle avait perdu le premier amour. Donc les vainqueurs d'Éphèse retournent à l'arbre de la vie, au paradis de Dieu. Et les autres sombres dans la connaissance. C'était Éphèse. Smyrne, vous vous rappelez quel était le thème principal de l'église de Smyrne ? Alors, premier amour, c'est Éphèse. Smyrne, c'était l'église persécutée. Et c'est une église à laquelle Jésus n'a fait aucun reproche. D'accord ? Et là, donc, sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Donc le thème, c'était la vie, la mort. Là encore, le vainqueur s'attache à Jésus à la croix, mort et vie. Et ceux qui refusent cette croix cèdent sous les persécutions, les tracas, etc. Les soucis de la vie, comme ça a été lu tout à fait au départ. La troisième église, Pergame. Est-ce que vous vous rappelez quel était le dilemme de Pergame ? Pergame, gamme, c'est le mot qui veut dire mariage. C'est le mariage avec le monde. C'est la compromission avec le monde. La quatrième église, celle qui est vraiment dans les profondeurs de l'abîme, vous vous rappelez laquelle ? L'église de Thyatire. Hein, tu laisses celle qui se dit prophétesse, enseigner mes serviteurs. Voilà, donc cette église de Thyatire qui mêle le spirituel avec l'occulte, les ténèbres avec la lumière, une église ténébreuse. La cinquième église, c'était l'église de Sardes. Est-ce que vous vous rappelez laquelle était le dilemme dans Sardes ? Tu dis que tu es vivant, tu as le renom d'être vivant, mais en fait tu es mort. Et quand on regardait, on avait disséqué un petit peu ce que Jésus disait. Voilà, ils avaient beaucoup de points théologiques, ils s'appuyaient sur leurs connaissances, mais ils n'avaient pas la vie. Et donc on arrive aujourd'hui à l'église de Philadelphie. Philadelphie qui veut dire l'amour pour les frères, l'amour fraternel. Et donc, sans plus tarder, on va lire ce texte-là. Donc, j'ai modifié, comme d'habitude, à 2-3 endroits pour rendre les connexions un petit peu plus claires. Donc, dans Apocalypse, au chapitre 3, ce sont les versets 7 à 13. Écris aux messagers de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. Je te donne devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que j'ai été aimé. Du fait que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai de l'épreuve qui va venir sur l'écoumène, c'est-à-dire le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville nouvelle, la Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'église de Philadelphie dans la liste des 7 églises est la 6e. Vous vous rappelez que j'avais organisé un petit peu les églises au départ, la première, la deuxième, la troisième, quatrième au centre, Thyatire, Sardes, Philadelphie la sixième, et on terminera Laodicée la prochaine fois. On voit donc que la deuxième et la sixième se répondent l'une à l'autre. La deuxième, c'était l'église de Smyrne. La sixième, c'est l'église de Philadelphie. À ces deux églises-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 6, Jésus ne fait aucun reproche. C'est un premier point commun. Et le deuxième point commun, c'est qu'ils ont le même adversaire, la synagogue de Satan. C'est-à-dire que dans le contexte historique, autant à Smyrne qu'à Philadelphie, il y avait la synagogue avec des juifs incrédules qui ne recevaient pas le message de l'évangile et qui devenaient les adversaires de la communauté chrétienne. Synagogue de Satan, Satan veut simplement dire adversaire. On le prend simplement dans ce sens-là. Donc, point commun, aucun reproche et même adversaire. Et comment Philadelphie va se sortir de là? Comme les fois précédentes, pour mieux saisir, je vous ai dit plusieurs fois déjà que la manière dont Jésus s'introduit et les promesses qu'il fait sont comme des codes qui nous permettent de comprendre à la manière dont Jésus se présente à l'Église, qu'est-ce qu'il veut dire à l'Église. Alors regardons déjà comment Jésus se présente. Il dit, je suis le saint et je suis le véritable. Alors on va creuser un petit peu ça. Parce que je suis le saint, je pense que tout le monde comprend ce que veut dire être saint ou la sainteté. Quelle est la définition de la sainteté? Ça veut dire quoi? Quelque chose est saint. Voilà, mis à part, distingué. Donc Jésus dit d'emblée, je suis à part, je suis tout autre. Je suis saint. Et on pense évidemment à l'Esprit Saint, l'Esprit qui nous met à part par rapport au monde, qui va nous distinguer du monde. Mais il dit également, je suis le véritable. Alors là, on ne va pas deviner forcément ce que ça veut dire. Par contre, donc moi j'aime bien regarder l'araméen, donc les mots employés dans la version araméenne du texte. Et là, le mot véritable, c'est un mot qui est de la même racine que le mot vérité, quand il est question de l'esprit de vérité. Et la racine de ce mot-là, c'est le mot qui veut dire affermir, rendre ferme. Alors, je ne sais pas s'il y a l'équivalent en arabe, char, qui veut dire affermir, rendre ferme, rendre solide. Donc quand Jésus dit je suis le véritable, il est en train de dire je suis celui qui affermit les cœurs. Et quand on voit le contexte de l'église de Philadelphie, qui se trouve avoir peu de puissance, on comprend que Jésus se présente à elle comme je suis celui qui affermit. C'est moi qui vais t'affermir. Vous voyez? Mais c'est intéressant parce que c'est le même mot qui est employé. Dans Jean 14, j'y reviendrai un peu plus tard, quand Jésus dit, je vais vous employer, j'envoyer l'esprit de vérité. Hein, souvent, à l'occidental, on a parlé un petit peu hier soir avec Abdel de cette différence entre l'Occident et l'Orient. À la mode occidentale, on dit, ah, l'esprit de vérité, c'est celui qui va me donner la connaissance, la doctrine. Pas du tout. Quand il dit, je vous envoie l'esprit de vérité, il dit, je vous envoie l'esprit qui va vous affermir en moi. C'est ça que ça veut dire, c'est très concret. Je vais affermir votre cœur en moi. Alors, je donne quelques exemples de cette racine employée par exemple dans Romains 1, 11, quand Paul écrit aux Romains, je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Et notez là la conjonction, le don spirituel, on fait appel à l'esprit. Pour vous affermir, l'esprit, affermissement. Voyez? Romains 16, 25. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Il faut une révélation de l'esprit pour que l'évangile affermisse le cœur en Jésus, dans l'évangile. Deux autres exemples rapidement. À nouveau Paul dans 1 Corinthiens 1, verset 8, en parlant de Dieu, il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus. Affermir, c'est toujours la même racine. Et enfin, 1 Pierre, chapitre 5, verset 10, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Et ce dernier passage, 1 Pierre 5, va très très bien dans le contexte de Philadelphie. Jésus se présente comme celui qui va affermir les frères et sœurs de Philadelphie. Quel contraste entre Jésus qui affermit et qui dit à Philadelphie, tu as peu de puissance. Donc on va voir ensuite dans quel sens il dit ça. Mais voyez le contraste, je suis le puissant de Jacob, j'affermis, je suis le véritable, le saint, et tu as peu de puissance. À savoir quand on parle de puissance, l'esprit de puissance. Là il dit non, tu as peu de puissance. Donc il y a ce contraste entre la force de Jésus et la faiblesse de Philadelphie. La puissance de Jésus et le peu de puissance de Philadelphie. Donc ça, ça va être la ligne, le guide pour tout ce que je vais dire. Après, il y a juste une note avant de vraiment basculer dans la prédication. Là, pour le moment, c'est l'introduction. Juste une petite note sur la manière dont le texte est construit. Il y a des séries de trois. Donc, au fur et à mesure que je vais avancer, je vais mettre en avant ces séries de trois. Je vous donne juste la première. Quand Jésus se présente, il dit « Je suis le Saint, le Véritable, celui qui a la clé ». Et on verra d'autres séries de trois, parce que tout va par trois. Les promesses de Jésus vont à chaque fois par trois. Donc, ça, je les noterai au fur et à mesure. Mais vous me verrez souvent faire des signes, alors ça ne sera pas sur le micro, mais des signes avec la main. Donc, je suis en train de compter trois. Alors, on y va. La première chose que Jésus met en avant, après avoir parlé de sainteté et d'affermissement, c'est son autorité. C'est ce à quoi renvoie le symbole de la clé de David. Pour bien comprendre ce passage, la clé, c'est un symbole d'autorité. Pourquoi ? Parce que la clé, c'est ce qui va ouvrir la maison de Dieu, la maison de David. Celui qui a la clé, c'est celui qui permet à quelqu'un d'entrer ou de ne pas entrer, à quelqu'un de sortir ou de ne pas sortir. Vous avez ça, l'allusion, donc la manière dont Jésus se présente en disant « j'ai les clés », c'est un passage que l'on trouve dans Ésaïe, au chapitre 22, versets 20 à 22. Et vous allez reconnaître des termes que Jésus emploie. « Il arrivera en ce jour-là que j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkia. Je le revêtirai de ton habit, je le ceindrai de ton écharpe, je mettrai ton autorité en ses mains. Et il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule. Il ouvrira sans que personne ne ferme. Il fermera sans que personne n'ouvre. » Donc vous voyez que ce passage dans Ésaïe 22 associe le fait d'avoir la clé à la question de l'autorité. En donnant la clé, il est dit, je mettrai l'autorité dans ses mains. Donc Jésus se présente comme celui qui a l'autorité. À nouveau, gardons toujours en image, avec une église de Philadelphie qui a peu de puissance. Jésus dit, je suis celui qui a l'autorité. Ça nous renvoie évidemment à la parole finale de Jésus avant qu'il ne s'élève, dans Matthieu 28, toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Quand on regarde le mot « clé », le mot « clé », il apparaît une autre fois dans l'Apocalypse. Est-ce que quelqu'un sait peut-être où est-ce que ce mot « clé » apparaît une autre fois dans l'Apocalypse ? Ça ne vous dit rien ? Sinon, je vous lis le passage. C'est dans Apocalypse chapitre 20, les premiers versets. « Je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. C'est l'autre passage dans l'Apocalypse où il est question d'une clé. Ça veut dire quoi? Quand Dieu enferme Satan dans l'abîme, il ne pourra ressortir que quand l'abîme sera réouvert. Ça montre la souveraineté de Dieu sur le serpent ancien, le dragon, qui est le diable et Satan. C'est l'autre image. Et ça, c'est très important par rapport au petit partage qu'on a entendu tout à l'heure. La souveraineté de Dieu, et ça pour nous c'est assez difficile parfois à comprendre, s'exerce également sur le monde satanique. Le monde satanique ne peut rien faire en dehors de la permissivité de Dieu. Il permet, et c'est toujours dans un but, un dessein, comme il a été dit tout à l'heure, parfois que l'on ne comprend pas. Parce qu'on se dit, mais pourquoi Dieu permet ceci, Dieu permet cela, pourquoi relâche-t-il le dragon de l'abîme quand on voit les souffrances que ça va occasionner? Mais Dieu, dans son dessein, voit le bien pour son peuple. Et c'est encore à nouveau le contexte de l'église de Philadelphie. Voilà, je suis face à des adversaires, j'ai peu de puissance. Et Jésus se présente comme, non, c'est moi qui ai l'autorité. C'est moi qui trace les limites au mal. C'est moi qui permet de relâcher. Tu ne comprends pas mes voies, mais aie confiance dans ma bienveillance. J'ouvre une parenthèse. Dans le contexte que l'on connaît en France depuis un an et demi, vraiment un de mes sujets de prière est celui-là. Dans quelque chose qui paraît fou, arriver à dire « Non, Seigneur, tu es bienveillant, tu as la maîtrise de toutes choses, je ne comprends pas tout, mais je dois te faire confiance. » C'est la réponse à l'angoisse que l'on peut parfois ressentir, hein, quand on est un peu sensible. Donc là, Jésus se présente comme celui qui a autorité. Donc autorité sur la synagogue de Satan, puisqu'on vient de le voir, c'est Dieu qui fixe les limites à Satan. Et en contraste avec l'autorité de Jésus, sa sainteté et sa capacité qu'il a à affermir, il y a donc cette parole, tu as peu de puissance. Alors deux mots là-dessus. Il y a deux manières de comprendre tu as peu de puissance. La première, c'est un constat objectif. C'est comme si Jésus disait, non, mais effectivement, tu as peu de puissance. Ça serait donc un constat objectif. Mais il y a une autre manière de comprendre ça. Tu penses que tu as peu de puissance. Comme si Jésus répétait les paroles de Philadelphie elle-même. Oui, voilà, les adversaires, c'est difficile, la situation, j'ai peu de puissance, en apparence. Et pourquoi est-ce que je penche dans cette deuxième interprétation? Parce qu'à partir de là, Jésus va dire, mais attention, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire cela. En clair, non, tu n'es pas seul. Et loin de te sentir impuissant, tu as avec toi celui qui est puissant. Ça, c'est important parce que on peut rechercher les choses en nous-mêmes, pour nous-mêmes. J'ai de la connaissance. J'ai de la puissance, je fais ceci, je fais cela. On ramène tout à hauteur d'homme et on se fait la mesure de nous-mêmes. Quand l'Esprit de Dieu travaille au travers de nous, nous n'avons pas besoin nécessairement d'en être conscient. On peut être puissant sans le savoir. Comme disait Tozer, donc on a reparlé de ça un petit peu hier soir, un saint ne sait pas qu'il l'est. Parce qu'à la lumière de l'esprit, ce qu'il voit, c'est sa nature de péché. Un saint ne sait pas qu'il l'est. Et si on lui disait « Oh, combien tu es saint !» il répondrait « Arrière de moi, Satan !» Pourquoi? Parce que Satan vise toujours à ce que l'on se regarde soi-même, qu'on se compare les uns aux autres, qu'on essaye de trouver en nous une mesure de justice, une mesure de sainteté, une mesure de connaissance. Il veut toujours nous ramener à nous-mêmes. Alors que tout le message de l'évangile est dans le sens du dépouillement pour voir Jésus, pour voir sa justice, sa sainteté, sa connaissance, sa puissance. Et c'est pour ça que quand Jésus dit à Philadelphie, tu as peu de puissance, j'ai tendance à le lire dans le sens, tu penses avoir peu de puissance, mais je suis avec toi, Et voilà ce que je vais faire pour toi, pour te démontrer que je suis avec toi. Donc c'est une question de regard. Se regarde-t-on nous-mêmes ou est-ce qu'on le regarde lui? Donc Philadelphie dit, oui, j'ai peu de puissance. Ça va être difficile, je ne sais pas comment je vais faire. Et Jésus lui dit, mais je suis avec toi. Tu n'as rien besoin d'autre. Je suis avec toi. Et voilà ce que je vais faire pour toi. Vous rappelez ce passage dans 2 Corinthiens 12, alors qu'il y a un de mes top 10 peut-être, un passage auquel je reviens souvent. Quand l'apôtre Paul se plaint parce qu'à cause de l'excellence des révélations qui lui ont été faites, Dieu a mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour le souffleter. Et il écrit ensuite, Jésus lui dit, mais ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Tu penses que tu as peu de puissance, tu penses que tu es faible, mais c'est ma grâce qui te porte dans ce que tu penses être de la faiblesse. Parce que la force, c'est moi, la puissance, c'est moi. Ne la cherche pas en toi-même. C'est le message à Philadelphie. Et c'est intéressant que Philadelphie, ayant accepté sa position de faiblesse, sa position d'impuissance, ayant accepté ce qui est dit dans Matthieu 6, heureux les pauvres d'esprit, ayant accepté qu'elle est pauvre, elle bénéficie de la grâce de Dieu et Jésus se manifeste en puissance. Donc Paul dit, je me glorifierai donc volontiers de mes infirmités pour que la puissance de Jésus habite en moi. Faiblesse, puissance. Et c'est là notre dilemme. On a du mal à accepter cette faiblesse. On veut maîtriser. On veut ramener à notre hauteur. On veut comprendre des voies divines dont la parole dit, mais mes pensées ne sont pas les vôtres. Arrêtez d'essayer de les comprendre. Ce ne sont pas les vôtres. Mais vous allez voir le fruit. Vous allez voir, comme il a été dit tout à l'heure, l'œuvre d'artiste. Donc souvent notre problème, on ne veut pas se dépouiller de ce vieil homme qui veut tout maîtriser, tout comprendre, toujours ramener à sa hauteur. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est comme ça que Paul conclut ce passage dans 2 Corinthiens 12. On va maintenant aller vers les groupes de trois. Jésus dit trois choses à Philadelphie. Il dit, tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Et c'est intéressant de les mettre en contraste avec la série de trois qui vient. Donc, je vais y revenir après, la série de trois. Mais tu as peu de puissance, mais j'ai mis devant toi une porte ouverte. Tu as gardé ma parole, je te garderai dans l'épreuve. Tu n'as pas renié mon nom, je te donnerai de ceux de la synagogue. Vous voyez? Donc on va commencer par le premier. Ou plutôt par la parole. Deux fois, Jésus dit à Philadelphie, tu as gardé la parole. Donc, Philadelphie, elle était faible, elle pensait ne pas avoir de puissance, et pourtant elle a fait l'essentiel. Elle a gardé la parole. La première fois, il dit, tu as gardé ma parole. Alors on pourrait dire, voilà, j'ai gardé la Bible, je la lis fidèlement tous les jours. Mais la deuxième fois, il dit, tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Donc on voit que garder la parole, ce n'est pas simplement garder la théologie, la doctrine, la lettre, mais là, il la double en disant, tu as gardé la parole de la persévérance en moi. On est en train de parler là de relation, de dépendance. La Bible devient le moyen de la relation avec Jésus. Et quel meilleur endroit pour voir ça, sinon, à mon sens, dans Jean 14. Dans Jean 14, Jésus va dire trois fois la même chose, mais de manière différente. Si vous m'aimez, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, un paraclète. En araméen, paraclète, ça veut dire celui qui détourne de la malédiction. Afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité. L'esprit qui va affermir. Si vous gardez mes commandements, je vous donne l'esprit qui va vous affermir. Pas l'esprit qui va vous bourrer de doctrine, l'esprit de vérité. L'esprit qui va vous affermir. Mais la deuxième fois, il dit, celui qui a mes commandements, verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me montrerai à lui. Celui qui a mes commandements, je me montrerai à lui. Mais est-ce que ce n'est pas exactement ce que Jésus est en train de faire avec Philadelphie ? Je vais t'ouvrir une porte. Je vais te garder dans l'épreuve. Vous voyez, toutes ces promesses, il est en train de dire, mais je vais me manifester au milieu de toi parce que tu as accepté, quand toi-même tu ne pouvais rien, sans moi tu ne peux rien faire, tu as peu de puissance à tes propres yeux. Donc c'est exactement ce que Jésus est en train de faire à Philadelphie. Tu as gardé ma parole, je vais me montrer à toi, comme il est dit dans Jean 14. Et dans Jean 17, on a la suite de cette promesse, dans Jean 17, à partir de verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est quoi la gloire ? On dit souvent « Ah, toi, la gloire !» ou alors « Gloire à Dieu !» Mais c'est quoi la gloire ? Est-ce que vous pouvez... Ça veut dire quoi la gloire ? Parce que là, c'est particulier, il dit « Je veux que là où je suis, il soit, afin qu'il voie ma gloire. » Est-ce que ça veut dire que Jésus est narcissique, égocentré, il faut qu'il voie ma gloire ? C'est quoi la gloire ? Est-ce que vous avez... une idée. Qu'est-ce que ça veut dire, la gloire ? Parce que c'est un mot qu'on emploie tellement, mais est-ce qu'on se rend compte de ce que ça veut dire, la gloire ? Parce que Jésus est en train de dire à Philadelphie, je vais te montrer ma gloire. Vous voyez ? Je vais me révéler en gloire au milieu de toi. Mais ça veut dire quoi, la gloire ? Déjà, le mot hébreu, peut-être que quelqu'un connaît le mot hébreu, ce qu'il veut dire littéralement. C'est le mot qui veut dire lourd, pesant, dense. La gloire, c'est quelque chose qui pèse. D'accord ? La gloire de Dieu renvoie à sa nature divine, c'est-à-dire son incorruptibilité, le fait qu'il est inchangeable, inaltérable. Il a une nature qui fascine les anges. C'est sa nature. Là, on ne parle pas de son caractère trinitaire, le caractère créateur, mais simplement ce qu'il est dans sa nature. Une nature qui est pure, illuminée, inaltérable, plus scintillant que de l'or pur. Quelque chose qui fascine quand on le regarde. On ne peut rien ajouter, on ne peut rien retrancher. C'est compact, inchangeable, inaltérable. C'est pour ça qu'il est Dieu. Dieu, il est parfait. Tous les attributs absolus sont dans cette gloire. On ne peut pas l'améliorer, on ne peut pas le changer. C'est compact, c'est dense, c'est absolu, c'est inchangeable. Et c'est absolument magnifique. Vous vous rappelez les chérubins qui portent le trône avec l'Éternel sur le trône ? La seule chose qu'ils peuvent dire, c'est « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Ils parlent de la gloire de Dieu. Et là, Jésus dit, je vais montrer ma gloire, je vais me révéler dans mon intimité. Ils vont voir ma nature, mon être profond. Et c'est un sujet de jouissance, de joie, d'admiration, d'adoration. Donc quand Jésus dit, je me montrerai, comme il le sous-entend à Philadelphie en disant, je vais t'ouvrir la porte, je vais te garder dans l'épreuve. Je vais donner de ceux de la Seigneur. Je vais me montrer, vous allez voir ma gloire. Est-ce qu'on aspire à voir la gloire de Jésus ? Pas simplement avoir le pardon des péchés, avoir la connaissance de la parole, mais simplement le voir. Le voir. Est-ce que c'est ce désir-là qui crée en nous cette attente de la résurrection et de l'entrée dans le monde qui vient ? Parce que Il n'y aura plus de Bible, il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de Satan. La seule chose qui va rester, c'est la nature même de Dieu. La gloire. Non, c'est quelque chose là. C'est plus fascinant qu'une pierre précieuse avec 1000 facettes, avec des éclats de couleurs dans tous les sens. On va être là. Waouh! On va voir la nature même de Dieu. Waouh! Et on va la voir dans le Fils. Parce que le Père, il est à nouveau, il est inaccessible. Le Fils va nous faire découvrir le Père. Mais pour cela, il va devenir le porteur de la gloire de Dieu. Comme il est dit dans l'Apocalypse, il est le flambeau, le révélateur de la gloire du Père. Voir la gloire de Jésus. Dans Ésaïe 6, quand Ésaïe a vu la gloire de Dieu, il a vu donc des chérubins, des séraphins, là il est dit, qui portaient le trône et qui criaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, toute la terre est pleine de sa gloire ». C'est immédiatement la gloire qui vient. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en voyant la gloire de Dieu, alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Et là, j'aimerais juste soulever un petit point. C'est une chose que de confesser son péché, reconnaître sa faute, se repentir à la lumière de la parole. Mais on peut, la chair même peut se servir de ça. On se repent, mais ça peut être par exemple pour avoir une bonne conscience, donner une bonne apparence aux autres, parce que on se sent coupable, mais vous voyez, c'est centré sur soi. On veut à nouveau se sentir bien, alors on confesse son péché. Mais vous voyez, tout ça, c'est centré sur soi. Versus, en comparaison d'eux, comme dans Ésaïe, c'est parce que je vois ta gloire que je réalise à quel point je suis pécheur. C'est en voyant ta nature parfaite, ta nature absolue, lumineuse, éclatante, que je vois que je suis un pécheur. Donc quand j'ai péché, mais c'est contre toi que j'ai péché. C'est pas contre mon petit sentiment de propre justice, non. C'est contre toi que j'ai péché. Mon péché est une tache en comparaison de ta gloire lumineuse. Et donc là, ça change complètement la repentance. On se rend compte que la repentance, alors, c'est la quête d'intimité avec Dieu par Jésus, et que quand l'on pêche, ce n'est pas un commandement que l'on a transgressé. C'est bien plus profond que ça. On a altéré la gloire de Dieu. On l'a sali. Donc de suite, on dit, oh, Seigneur, c'est ta gloire que j'ai attaquée par tel ou tel péché. Donc, ramène-moi à toi, parce qu'on met le péché en perspective de la gloire de Dieu, de la relation avec lui, de sa nature qui a été offensée par le péché. Voilà, donc juste... c'est pour ça que la repentance se pratique dans la prière. Dans la prière où on cherche à voir la gloire de Dieu, c'est-à-dire on cherche la communion avec Jésus, et c'est dans cette communion-là que l'on peut dire « Ah, ah oui, là je vois par contraste ceci, cela. C'est contre toi et toi seul que j'ai péché. » Donc on a vu les trois constats de Jésus. Tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. Et on voit les trois promesses de Jésus qui correspondent. Je vais mettre devant toi une porte ouverte, parce que tu as peu de puissance. Je vais te donner de ceux de la synagogue de Satan, parce que tu n'as pas renié mon nom quand tu as été confronté à eux. Et je te garderai de l'épreuve, parce que tu as gardé ma parole. Alors regardons un petit peu maintenant ces trois aspects. Le premier, c'est la porte. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Alors, il y a plusieurs manières de comprendre ça. Je vous en propose juste deux. Quand on lit un petit peu les commentaires, on dit souvent, tiens, la porte ouverte, c'est la porte de l'évangélisation. Pourquoi pas? Quand on a une lecture prophétique de cette église, qui n'est pas la lecture que j'ai adoptée dans cette série, mais on essaye de voir si les sept églises correspondraient à cette phase de l'histoire de l'église sur les deux derniers millénaires. Philadelphie, correspondrait à l'époque justement des églises missionnaires, 18e et 19e. J'ai mis devant toi une porte ouverte, la porte de la mission. Mais si on revient simplement au contexte ici, ben, la porte de la mission, elle a porté son fruit, puisque certains de la synagogue viennent adorer Dieu et se prosterner devant Philadelphie. Pas pour adorer Philadelphie, mais pour adorer Dieu en reconnaissant que Philadelphie lui a amené la bonne nouvelle. Donc vous voyez, là aussi, on a un contexte où une porte a été ouverte, que l'on pensait fermée par l'incrédulité et le rejet du Messie, une porte s'est ouverte. Mais on peut le voir également d'une autre manière. Je débloquerai une situation dans ta vie. Je vais ouvrir une porte là où tu pensais que c'était fermé et tu ne voyais pas de solution. Tu ne voyais pas d'issue. Je vais ouvrir une porte dans ta vie. Dans ce sens-là, et sans entrer dans les détails, c'est comme ça que j'ai reçu cette parole-là en septembre 2017. J'entendais un prédicateur américain que vous connaissez peut-être, Tim Conway, qui était avec Charles Leiter, en tournée en Suisse. Un frère m'a invité à aller là-bas. Et ce frère a prêché sur le texte de Philadelphie. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça, mais j'étais saisi sur ma chaise en ayant l'impression qu'il n'y avait plus que moi et la parole de Dieu. Et là, j'avais reçu, j'avais débloqué quelque chose dans ta vie. Et c'est ce qui s'est passé. La porte ouverte. Donc, prenons-le personnellement. C'est le Seigneur qui nous ouvre les portes de sortie de situations que l'on pensait inextricables. Deuxièmement, la synagogue de Satan. Alors, je viens de le dire, une porte, certains viennent à la foi. Mais ce qui m'a frappé, moi, quand il parle de la synagogue de Satan, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'aime. C'est frappant, ça. Je vais leur faire connaître que je t'aime. On peut voir la lettre de Jésus à l'église de Philadelphie comme une lettre d'amour. Je vais faire pour toi ceci, je vais faire pour toi cela, et je vais même les amener à reconnaître combien je t'aime. Vous voyez? Une déclaration d'amour. Et enfin, le terme épreuve. Je te garderai de l'épreuve. Je te garderai de l'épreuve. Ce mot-là, autant en grec qu'en araméen d'ailleurs, a deux sens, au moins. Il y en a plusieurs, mais il n'y en a que deux là que je vais accentuer. C'est à la fois le mot épreuve, mais également le mot tentation. Donc là, il faut toujours faire attention dans les versions que l'on lit, ou alors quand on traduit, il y a des mots comme ça à double sens. Par exemple, le mot là, dans le contexte, on va le traduire comme une épreuve ou comme une tentation. Un autre mot dont on a parlé ce matin peut être traduit selon le contexte comme désir ou comme convoitise. Donc vous voyez que l'épreuve, Dieu a éprouvé la foi d'Abraham, Genèse 22, et Dieu éprouva Abraham, c'est exactement le même mot qui est employé. Mais également dans Jacques 1, personne n'est tenté par Dieu. Que personne ne dise Dieu me tente. Et pourtant, c'est le même mot, c'est le même verbe. Vous voyez, donc suivant le contexte, éprouver, tenter, désirer, convoiter, c'est le même mot. Donc là, il dit, je vais te garder de l'épreuve qui va survenir sur le monde entier afin d'éprouver, deux fois le même mot, éprouver les habitants de la terre. Mais là, il dit, je vais te garder de ça. J'ai vu quand nous avait donné des petits papiers là pour le Notre Père, justement, j'ai noté ce passage-là. Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, mais sauve-nous du malin. Un troisième sens du mot, le mot qui est employé là, je vous fais grâce de les prononcer en araméen, mais ce mot-là veut également dire le jugement. Ne nous fais pas entrer en jugement face à l'accusateur, le malin. Il y a aussi cette dimension-là dans le Notre Père. Garde-nous de ne pas entrer, de ne pas nous précipiter nous-mêmes dans la tentation. Garde-nous de l'épreuve. et garde-nous d'avoir à faire face à l'accusateur. Ce sont les trois sens que l'on peut trouver dans ce passage. Et il dit également, toujours dans le sens, dans le thème de garder, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Et là, j'ai regardé le mot persévérance. Alors, à nouveau, je ne vais pas vous le prononcer, mais ce qui est important, c'est la racine, ce mot persévérance. Donc, croyez-moi sur parole, de la même racine, on a le mot persévérer, espérance, évangile, prédication et la nourriture qui permet de persévérer. Tous ces mots-là ont la même racine. Donc quand il dit « Tu as gardé la parole de la persévérance en moi », ça veut dire que tu as espéré en moi, que tu as adhéré à l'Évangile et que j'ai été pour toi nourriture. C'est tout ça que ça veut dire. Quand il dit « Tu as gardé la parole de la persévérance ». Donc là, on est vraiment dans l'intimité, le relationnel. Donc voilà pour ce qui est de développer la dimension de garder, qui à mon sens est la plus importante ici. Ensuite, parce que je vois que le temps avance, il dit, il conclut avant de faire la promesse, « Voici, je viens bientôt, retiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » La couronne. Paul écrit dans 2 Timothée 4, versets 7 et 8, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Au reste, la couronne de justice m'est réservée, que le Seigneur juste juge me donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son apparition, sa révélation. » Retiens ce que tu as reçu, afin que personne ne prenne ta couronne. Qu'avons-nous de plus précieux que Jésus lui-même? Donc cette foi qui est le moyen d'être uni à lui, et cette couronne que l'on a déjà, puisqu'à Philadelphie il dit « retiens ta couronne », mais la couronne également que nous recevrons en rencontrant l'agneau. On recevra cette couronne de justice. C'est ce que dit Paul, il dit « la couronne m'est déjà réservée ». Donc il ne l'a pas encore, mais il sait que cette couronne lui sera donnée. Tu es déclaré juste. Entre dans la maison de ton maître, dans la couronne qui est le signe de l'acceptation, et ici le signe de la justice. En conclusion, la promesse au vainqueur. Voilà ce que Jésus promet à celui qui vaincra à Philadelphie. Je ferai de lui, je vais reprendre le texte, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Quand je lis ça, je me dis, tiens, l'un va devenir le linteau, l'autre va devenir une pierre, une dalle, le troisième va devenir une colonne. C'est l'idée que le vainqueur, je vais l'intégrer dans, il va devenir partie tenante de la maison de Dieu. Or, on sait que la maison de Dieu, le temple de Dieu, ça fait partie de ces images qui représentent le corps de Jésus, le corps mystique. Donc quand on dit le corps de Jésus, la maison de Dieu, le temple de Dieu, la Jérusalem céleste, l'épouse, ce sont différents vocables pour parler en fait de la même réalité. Un corps fait de plusieurs et qui sont pourtant un. Donc ici, je ferai de lui une colonne. Alors évidemment, on cherche le mot colonne dans le Nouveau Testament. Et on tombe sur 1 Timothée 3, verset 15. La maison de Dieu est l'assemblée du Dieu vivant, la colonne et le fondement de la vérité. Et le mot vérité là, c'est toujours le même, quelque chose qui affermit. C'est toujours la même racine. Donc la colonne, quelque chose qui est solide, sur lequel on peut mettre une charge, quelque chose qui est ferme. Je ferai de lui une colonne. La maison de Dieu est la colonne et le fondement de la vérité, de l'œuvre d'affermissement de Dieu. Et là encore, Jésus promet trois choses. Je mettrai sur lui le nom de mon Dieu, on pense donc le Père. Je mettrai sur lui mon nom nouveau, le nom associé au Fils. Et il dit également, je mettrai sur lui le nom de la Jérusalem céleste. Alors quand je lis ça, je me dis, tiens, ben, on dirait quasi une formule, alors là j'ai employé un terme barbare, une formule doxologique, c'est-à-dire une formule qui renvoie à la Trinité. On a le nom du Père, le nom nouveau du Fils, mais au lieu d'avoir l'Esprit, on a celle qui va recevoir l'Esprit, c'est-à-dire la Jérusalem céleste, qui est faite pour être un vase de l'Esprit de Dieu, autrement dit un vase de la gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu, qui va habiter en nous, qui seront les pierres vivantes de la Jérusalem céleste. Donc là encore une série de trois. Donc en conclusion, et je serai dans les temps, miracle, en conclusion, la lettre aux Philèles de Philadelphie, ça n'encourage pas à vaincre pour vaincre, à résister aux mensonges de la synagogue de Satan pour résister aux mensonges. On voit que dans le message de Jésus à l'église de Philadelphie, c'est lui-même qui s'offre comme étant la victoire, comme étant celui qui a fermé, comme celui qui va ouvrir les portes, comme celui, parce que Philadelphie reconnaît qu'en elle-même elle a peu de puissance. Et non seulement ça, mais Jésus lui promet de l'absorber dans sa création finale, dans la Jérusalem céleste, dans le temple de Dieu, pour l'intégrer dans cette œuvre d'art qui est l'Église. Il est dit là, et il n'en sortira plus. Il sera intégré dans la maison de Dieu. Vous vous rappelez de ce psaume, là, j'ai plus le numéro en tête, qui dit « Je n'ai qu'un désir, c'est d'entrer dans le temple et dans les parvis de l'Éternel ». Voilà, il veut trouver son délice là. Quel contraste, c'est mon mot final, avec l'église suivante, Laodicée. Parce que là, il nous est parlé d'intégration dans le corps de Christ, intégration dans le temple de Dieu, intégration dans la Jérusalem céleste. Et nous verrons la prochaine fois que le message à Laodicée, la dernière des églises, va complètement à l'inverse. Jésus vomit l'église et l'église a rejeté Jésus. Je suis à la porte et je frappe, ce qui veut dire que Jésus est dehors. Le temps de Laodicée sera un temps d'exclusion, de rejet mutuel. Ici, nous avons exactement l'inverse. C'est un temps d'intégration, d'union dans le temple de Dieu. Jésus se manifeste dans sa gloire, la gloire de la Shekinah, dans le lieu saint, le lieu très saint du temple qui est l'Église. Donc on verra pour la prochaine fois, c'est une manière de susciter un peu la curiosité, mais on verra, le message sur Laodicée est absolument terrible, parce que c'est exactement à l'inverse de là. Autrement dit, ceux qui n'auront pas vaincu au temps de Philadelphie, ceux qui n'auront pas vu la gloire de Jésus, ne se seront pas appuyés sur lui, mais auront cherché la puissance, voilà, d'avoir tout pour eux, ceux-là vont terminer dans la Odyssée. Les vainqueurs sont intégrés, et ceux qui refusent la gloire de Jésus et de dépendre de cette gloire seront rejetés. Donc on verra ça la prochaine fois, et sans doute, donc, comme on l'avait dit, la fois suivante, j'essaierai de lier un petit peu tous ces messages pour voir les relations entre les uns et les autres. C'est un peu ce que j'ai fait au départ, quand j'ai dit les vainqueurs d'Éphèse mangent de l'arbre de la vie, mais ceux qui refusent l'arbre de la vie tombent de la connaissance. Ceux-là, Pergame, etc., etc. On va voir la toute dernière fois comment s'articulent les messages d'une église à l'autre. Voilà. Je propose qu'on en conclue là et je suis dans les temps.